Voilà, donc on va continuer avec la communication de Florence Père, qui travaille à l'université de Tübingen et qui va nous parler donc un peu de géographie, voilà, à la recherche des frontières et des territoires de la Transjordanie. Un regard de longue durée, ben c'est bien de prendre aussi un peu les annales ici, c'est bien. Regard de longue durée de l'âge de bronze récent jusqu'à la fin de l'âge de fer. Donc, on va...
Donc, mesdames, messieurs, avant de nous lancer dans l'exploration de l'histoire territoriale de la Transjordanie du 14e jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, permettez-moi deux remarques préliminaires. En fait, ce sont trois remarques. Voici d'abord ce que je vais vous présenter. C'est non pas un drame en trois actes comme on l'avait hier, mais une histoire en trois actes de façon chronologique. La deuxième remarque, donc, pour l'étude d'un objet si prestigieux que la stèle de Mécha, une mise en contexte non seulement au niveau philologique, culturel ou religieux, mais aussi au niveau spatial et temporel est indispensable pour éviter qu'il ne soit traité isolément. Outre le fait que ce n'est qu'avec un regard de longue durée qu'on peut déceler des procès de transformation, des continuités ou de nette rupture, il me semble que souvent les régions de Transjordanie sont traitées séparément. Et sauf quelques références croisées liées à l'histoire politique, elles vivotent en coexistence muette. C'est pour cette raison que dans la suite, j'essaierai de faire une sorte de tissage en reliant les différentes régions de la Transjordanie et parfois de la Cisjordanie entre elles au fil du temps. La troisième remarque porte sur les termes frontières et territoires qu'on trouve dans le titre de mon exposé. Comme l'ont montré les grandes discussions plutôt anthropologiques sur la nature des sociétés en Transjordanie et au Proche-Orient ancien en général, il faut bien éviter d'apporter une pensée très européenne et assez rigide en nation et en des États nationaux ou des territorial states, je ne sais pas comment on dit ça en français, à la réalité de l'Orient ancien. Au lieu donc de définir des frontières et des territoires clairs et nets, il serait beaucoup plus sage de considérer des frontières comme des limites séparant deux régions caractérisées par des phénomènes physiques ou humains différents, et des territoires comme une étendue dont un individu ou une famille se réserve l'usage, ou encore comme un espace relativement bien délimité que quelqu'un s'attribue et sur lequel il veut garder toute son autorité. On verra au cours de l'exposé que le type de royaume que l'on rencontre en Transjordanie comme en Cisjordanie de l'âge de fer, que l'on appelle Tribal Kingdom ou Segmentary State ou tous les autres termes qui existent dans la littérature, qu'il montre en règle générale une structure plutôt dichotomique de centre et périphérie. Le centre est d'habitude la ville ou la région de la famille dont origine le roi, entre guillemets, c'est-à-dire le chef d'une confédération de différentes tribus. Ceci implique que le centre peut être disloqué, par exemple après des changements dynastiques, comme on le voit en Israël. La périphérie est très flexible, elle aussi, son étendue dépendant largement de la situation politique et économique des tribus ou des clans, des familles, reliées à la famille royale avec des alliances très changeantes. C'est-à-dire, une extension du pouvoir d'un certain roi signifie en premier lieu la soumission de ou l'alliance avec les autres tribus, ce qui entraîne en revanche une certaine domination territoriale. Ce qui est décisif pour une reconstruction historico-géographique de la Transjordanie ancienne sont les populations et leurs relations avec les rois respectifs et non pas des États définis par leur territoire et leurs frontières. Car, je cite, « les soi-disant frontières entre des États et des tribus ne sont pas fixes dans une région telle que la Transjordanie centrale. Elles s'élargissent et se contractent périodiquement. » Allons donc à la recherche de ces changements périodiques en Transjordanie, en commençant avec l'âge du bronze récent. Contrairement à la Cisjordanie, il est difficile d'apprendre quelque chose sur la Transjordanie au bronze récent. Un seul site de taille a été fouillé, c'est Tel el Umeri. Les résultats des prospections sont souvent imprécis et on n'a presque pas de notices écrites. On se dispute traditionnellement sur la localisation de quelques toponymes connus de quelques inscriptions égyptiennes dès le XVe siècle dans la région connue plus tard comme Moab. Bon, voici quelques exemples. Il y a peut-être Dimon, peut-être Kirak, peut-être Moab en général. Idom, en tant que terme géographique, est sûrement connu dès le XIIIe siècle. Il paraît qu'on appelait Zéhir la même région qui s'étend de la mer Morte et du Wadi Hessa jusqu'au golfe d'Aqaba. Encore dans les inscriptions égyptiennes, trouvant pour les deux contrées des populations nomades appelées Chassou, bien que celles-ci semblent avoir été plus actives dans la région d'Édom que dans le pays de Moab. Pour l'aspect archéologique, une révision critique du matériel des fouilles et des prospections effectuées par Finkelstein dans les années récentes montre les vestiges de populations sédentaires en ordre décroissant du nord vers le sud. Finkelstein nomme 15 sites pour la région entre le Yarmouk au nord et le Wadi Asarka au milieu de la Transjordanie. D'ailleurs, c'est la région la plus favorable à la vie sédentaire de Transjordanie, avec des précipitations assez abondantes et plusieurs cours d'eau permanents. Il paraît qu'il y avait un centre régional à Irbit, et Finkelstein et Lipschitz tentent d'identifier Irbit avec Bet Arbel, connu de l'Ancien Testament, et Tel El Hussein, un peu plus au sud, on ne peut pas trop bien le... Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, donc... Tel El Hussein avec Litbir, et encore l'un des deux, donc ou bien Irbit ou bien Tel El Hussein, comme le centre de l'état de Soura, qui est connu de l'archive d'Armarna. Le territoire de Soura, ce serait, selon cette interprétation, donc, étendu le long du Yarmouk jusqu'aux pentes vers le Jourdain et au bord du désert à l'est, au sud, ou bien jusqu'à la frontière naturelle du Wadi Asarka, ou bien jusqu'à une autre entité politique encore à trouver. Pour la région du Wadi Asarka jusqu'au Wadi Mujib, ne reste que 8 sites, dont aucun se trouve entre le Wadi Asarka et Amman. Il n'y a pas de site qui daterait incontestablement du bronze récent au sud de Madaba, c'est-à-dire le plateau de Kirak, ainsi que la région du Wadi Hessa, n'avait apparemment pas de population sédentaire au bronze récent. La situation diffère donc complètement de l'âge du bronze ancien et moyen, ainsi que de l'âge du fer. La raison pour la réduction du nombre des sites aurait été probablement un changement climatique. Les années 1250 jusqu'à 1100 sont caractérisées par une grande sécheresse qui entraînait un mode de vie plutôt nomade. À l'âge de fer, il y a une région appelée Galaad qui apparaît en Transjordanie centrale, située entre le Jourdain et le bord du plateau de Transjordanie, incluant les montées vers le plateau du Wadi Asarka jusqu'au nord de Heshbon, donc parallèlement à la région entre Sichem et Bet El en Cisjordanie. Mais je reviendrai sur Galaad dans le prochain chapitre. En tout cas, ce territoire était parallèle à ce que Lipinski décrit comme le territoire ammonite, qui serait la région entre le Wadi Asarka, les pentes du plateau vers le Jourdain à l'ouest et le Wadi Hesban au sud. On ne sait presque rien sur Ammon, sauf que son centre se situait probablement à Rabat Ammon, aux sources du Zarka, et qu'il y avait apparemment des influences araméennes. Il paraît en plus qu'il y avait des contacts entre les populations de Cisjordanie et de Transjordanie. Donc des deux régions correspondantes au niveau géographique, du moins si le chapitre 11 du premier livre de Samuel préserve des mémoires historiques. C'est l'histoire où Saul est appelé à l'aide du peuple de Yabesh-Gilead. Pour les régions du sud, le changement climatique du XIIe siècle vers un climat plus doux se fait noter par une croissance du nombre de sites associés avec cette phase de l'âge du fer, ainsi que par une extension des régions habitées. On a maintenant la région de Heshbon, la région de Dibon entre le Wadi Yathamed et le Wadi Mujib, le plateau de Kirak jusqu'au Wadi Hessa et même encore plus loin au sud. Il en est de même pour la Cisjordanie, avec, entre autres, Tel Massos, Tel Bercheva et Kadesh Barnea au Negev. Par contre, en Transjordanie, il n'y a pas ce changement caractéristique d'une société plutôt urbaine vers une société rurale, comme en Cisjordanie, peut-être simplement par manque de cité, à l'exception de Amman et de Soura, il n'y avait pas de cité. De ces régions méridionales, le plateau de Madaba, avec ses terres très fertiles et sa position stratégique, était contesté entre pas mal de populations et semble assez peuplé. Le plateau de Diban l'est moins. Au cours du XIe siècle, s'établissent dans la partie sud-est de ce plateau de Diban plusieurs sites du type enclosed settlement, dont existent des équivalents dans les régions centrales de Cisjordanie et au Negev, qui se ressemblent entre autres par la construction d'enceintes en casemate. L'interprétation est sujet à discussion. À mon avis, Gunnar Lehmann propose une vue convaincante en considérant ces sites comme reflétant des tensions tribales, soit entre pairs, soit à cause des tendances hégémonistes d'une autre tribu ou d'un autre clan, ou même d'un seul individu, un type comme Saul à Gibeah peut-être. Finkelstein et Lipschitz, par contre, regardent les enclosed settlements au sud du Wadi Mujib comme des forteresses qui protègent la capitale d'une early Moabite state formation. Cette capitale serait Balua et le territoire de Moab, le paysage entre le Wadi Hessa et le Wadi Mujib, donc le plateau de Kirak. Comme contexte historique, il propose le développement au sud, dans la région d'Edom, où le site de Hirbet en Nahas fleurissait dès le XIIe siècle, grâce à l'interruption du trafic de cuivre de Chypre et à la fin de l'exploration des mines de Timna sous l'égide des Égyptiens. La vallée de Beersheba, ainsi que les plateaux de la Transjordanie centrale, auraient donc été les voies commerciales vers la Méditerranée et vers Damas, et la participation au commerce du cuivre aurait été décisive pour la naissance de structures étatiques au Negev et en Moab. Or, Finkelstein et les autres n'expliquent pourtant pas pourquoi ce procès de formation politique se trouverait exclusivement sur le plateau de Kirak et non pas dans les territoires du Nord, qui eux aussi faisaient partie de la route vers Damas. En tout cas, il est vrai qu'en Édom se forment des entités politiques, probablement sous l'influence externe de la présence égyptienne dans les mines de Timna, qui favorisait la sédentarisation et la stratification sociale des tribus édomites. Quand les Égyptiens se retirèrent de la région, un système politique tribal prit leur place, bien que Hirbet en Nahas reste le seul site permanent dans la région. À partir environ du Xe siècle, donc après la retraite égyptienne de Cisjordanie et de Transjordanie, les structures tribales évoluent. Des formations supra-tribales émergent qui montrent plus de stabilité que des alliances plus ou moins ponctuelles et qui résultent en des petits royaumes. Il faut maintenant poser le regard sur une région tout au nord que nous avons laissée de côté jusqu'ici. Le cours supérieur du Jourdain, avec des sites tels que Dan, Hazor et Abel Bet Maaka, les rives du lac de Tibériade avec Etel, Kinrot, Engev et Tel Hadar, ainsi que la partie sud du plateau de Golan jusqu'au Yarmouk, sont contestées par le nouveau royaume d'Israël et les puissants rois d'Aram Damas. Le litige territorial, mis de côté en 852 pour le moment, pour faire une coalition anti-assyrienne contre Shalmaneser III, mémorisé par l'inscription de Kurk, ont, en fin de compte, mené à un double régicide commémoré dans l'inscription de Tel Dan, laissant Hazael de Damas vainqueur sur les rois Yoram d'Israël et Ahazia de Judée. Le fait que la bataille décisive est localisée en Transjordanie, à Ramat en Gilead, montre que même la région au sud du Yarmouk était réclamée et par Aram et par Israël. Galaad en Transjordanie centrale semble avoir grandi au cours du Xe ou du IXe siècle. Alors que le terme désignait à l'origine seulement la petite région entre le Jourdain et Ammon, donc la rive est du Jourdain, il est monté vers le plateau du Wadi Asarka au nord jusqu'à Eshbon au sud, l'émergence de toponymes du type N en Gilead en Galate, au nord du Wadi Assarqa, indique apparemment que la région entre le Wadi Assarqa et le Yarmouk, avec des sites tels que Mahanaïm, Penuel, Yabesh, était désormais appelée aussi Galate. Galate désignerait alors tout le territoire transjordanien habité par des Israélites, du Yarmouk jusqu'à Eshbon. L'archéologie semble confirmer cette étendue israélite, probablement motivée par des aspects stratégiques militaires et la participation aux routes de commerce. En 842 environ, Hazael s'empara du plateau d'Irbit et peut-être de l'ancien Galate près de Moab. La partie sud de Galate fut conquise par Mécha. Jéroboam II reconquit la partie ouest de Galate ainsi que le plateau d'Irbit qui toutefois revint à Rezin de Damas un peu plus tard. On voit l'étendue sur la carte tout à droite. L'expansion israélite au sud de Galate est indiquée dans l'inscription de Mécha qui attribue au roi Omri l'annexion du pays de Madaba et à ses fils le règne sur les pays d'Ataroth ainsi que les villes de Nebo et de Yahaz. Le Wadi Ethamet constituait alors la frontière sud du territoire israélite, marquée ostensiblement avec les forteresses de Yahaz, donc Rebet al-Mudayna Ethamet, et d'Ataroth, Rebet Atarus, déployant toutes les caractéristiques d'architecture omride vis-à-vis du plateau de Liban. Si la domination politique était israélite, cela ne signifie pas nécessairement que la population dans les territoires concernés l'était aussi. Mécha parle par exemple des Gadites qui auraient depuis toujours habité Ataroth, un territoire revendiqué à la fois par les Omrides et par Mécha, mais dont les habitants ne sont considérés ni comme une tribu moabite ni comme les Israélites. Outre les Gadites, Mécha mentionne encore des Charonites, des Maharitites, peut-être Bétavites, rappelant les remarques de M. Le Maire hier sur les différentes interprétations de ce terme. Et Mécha se qualifie soi-même comme Dibonite. Mais on remarque qu'il ne dit rien des Ammonites. Il se peut que c'était seulement après que Mécha eut chassé Israël de la région qu'Ammon devint le nouveau voisin immédiat de Moab, la dernière s'étendant désormais beaucoup plus loin vers le nord qu'avant. Les conquêtes de Mécha se situent en effet dans la région au nord du Wadi Mujib, notamment avec les sites de Yahaz et d'Ataroth, ainsi que de Nebo et de Madaba. Au 8e siècle, la frontière nord se déplaça encore plus loin vers le nord, jusqu'au Wadi al-Kefren à l'ouest de Amman. Il se peut qu'alors il y avait des querelles territoriales entre Moab et Ammon, éventuellement rappelées dans l'Ancien Testament à plusieurs places. Ammon, à son tour, s'étendit alors vers Madaba au sud et jusqu'au Wadi Ethamet et la stèle moabite au musée d'Israël qu'on vient de voir, qui parle des prisonniers ammonites en Moab, on pourrait faire preuve. À la recherche de l'ancien centre du territoire de Mécha, c'est-à-dire de cette entité politique appelée Moab, on trouve trois scénarios. Suivant les indications bibliques et une bonne partie de la littérature scientifique, le centre se trouve sur le plateau de Kirak, entre le Wadi Hissa et le Wadi Mujib. Une vue minimaliste, partant de la stèle de Mécha, opte pour le plateau de Duban entre le Wadi Mujib et le Wadi Ethamet. La troisième possibilité situe le centre autour du Wadi Mujib, qui serait donc le fleuve de Moab et non sa frontière. La notice de Mécha, qu'il a fait construire à Roer et une route à travers le Wadi Mujib, ainsi que l'archéologie que M. Rutledge vient de présenter ce matin, me semble de pointer notamment vers la troisième possibilité. Que Diban soit le nom d'une tribu ou d'une ville, le territoire de Diban constituait sûrement le centre pour Mécha, à partir duquel il étendit sa portée, à la fois vers le nord et vers le sud. Les deux directions d'expansion territoriale se trouvent sur la stèle. Ceci ne conteste pas l'existence d'autres groupes de sites autour des sites centraux, tels qu'on les trouve autre que Diban à notamment Rebet Atarus à Madaba, à Rebet al-Mudayna à Temet et au sud-est du Liban. En fait, cette situation correspond parfaitement à l'idée de la nature polycentrique et hiérarchique des royaumes en Transjordanie. Avec de telles structures, je doute qu'une interprétation de Moab sous Micha comme une entité politique homogène, avec Dibon comme centre, comme unique centre, déployant des tendances d'un État national et même d'unifier les différentes ethnies du territoire de Moab et de faire avancer une colonialisation organisée du sud, donc du plateau de Kirak. Je paraphrase Erasmus Gass qui, pour la littérature allemande, est un livre de référence. Il me semble plus réaliste de présumer une région organisée au niveau quotidien en tribus indépendantes, comme les Dibonites, les Médabites, etc. Micha parle d'ailleurs dans la ligne 29 d'une centaine de villes sous sa domination royale, mais qui forment une structure supratribale nommée Moab, avec un roi à la tête et avec un certain intérêt pour une hégémonie territoriale et en général pour des aspects étatiques. Le nom de Moab, comme terme géographique, a donc été adopté pour désigner non seulement une région, mais aussi un territoire politique qui, par un nom unifiant, peut se démarquer des autres, par exemple d'Israël. Quant à Édom, tout au sud, la région était toujours intéressante pour les autorités du nord à cause du cuivre, nécessité à la fois pour les outils agricoles et pour l'équipement militaire. Il se peut que la région de Fainan était vassale d'Israël. Elle était sûrement vassale des Assyriens, probablement de son propre gré, à partir de la fin du IXe siècle déjà. Au cours du VIIIe siècle, s'établissait un système assez complexe entre les différentes tribus du sud, au sein duquel se forma un chiefdom avec le centre à Bousseira. Bousseira, l'unique ville d'Édom, est un phénomène singulier, adoptant quantité de caractéristiques des villes du nord, alors que les sites des alentours étaient des petits hameaux ou encore des forteresses inaccessibles telles comme El-Biara. De nombreux sites au sud de la mer Morte et au Negev, tels que En-Hasseva et Horvat Kitmit, nous informent des contacts commerciaux vers l'ouest avec les villes philistines et judaïques plutôt que d'une expansion politique édomite vers l'ouest. Les petits royaumes de la Transjordanie se maintiennent assez longtemps, contrairement aux royaumes du Nord et de Cisjordanie, qui de temps en temps font des coalitions anti-assyriennes, comme par exemple Damas, Tyr et Israël, ou qui refusent de payer le tribut et par conséquence éprouvent durement les ripostes assyriennes. Ammon, Moab et Édom se montrent comme des tributaires plutôt fidèles. Des sites fortifiés à l'ouest du Wadi Athamet et du Wadi Ressa, ainsi que le long de ce dernier, semble avoir servi de fortification de frontières contre les tribus arabes, probablement par ordre assyrien. En revanche, les royaumes du sud gardaient un certain degré d'indépendance et ils ne cessaient que vers 553 sous Nabonide de Babylone. Nous nous approchons déjà de la fin. Et que reste-t-il donc ? Nous avons vu, j'espère, que Micha, aussi exceptionnel qu'il nous paraît, s'inscrit parfaitement dans le cadre historique du IXe siècle, alors que les différents modes de vie dépendent largement des aspects climatiques et économiques, rappelant les changements des territoires habités en Transjordanie au bronze récent et au début de l'âge de fer, les structures sociales et politiques, ainsi que leur développement, sont étroitement liées aux circonstances historiques avec toutes leurs contingences. Dans le temps de la vacance d'un pouvoir impérial, donc après la retraite des Égyptiens et avant l'arrivée des Assyriens, émergent dans toute la région, au IXe siècle et déjà au Xe, des leaders qui arrivent à rassembler des tribus dans une sorte de confédération plus stable que les alliances ordinaires, créant ainsi avec le temps des chiefdoms ou même des petits royaumes, parfois avec des considérables succès territoriaux, comme ici par exemple Israël. Toutefois, l'émergence d'un chiefdom ou d'un royaume est étroitement liée aux gens qui y participent, plutôt qu'à une idée abstraite d'un territoire ou d'un peuple qui l'habite. Les anciennes structures continuent donc, de même les anciens modes de cultivation et d'exploitation des territoires. Relatif à la situation géographique et sociale, s'établit un centre, d'habitude une sorte de ville, comme Rabat Ammon, comme Dibon ou comme Bousseira, avec une périphérie rurale, voire semi-nomadique. Cependant, puisque les différentes tribus restent chez soi, pour ainsi dire, on a en même temps une structure polycentrique, d'autant plus qu'au niveau de la vie quotidienne, l'autorité reste auprès du chef de tribu locale. À la capitale, comme ville de roi, dans sa relation avec la périphérie, comme les territoires des tribus associées, correspond au niveau social la position de la famille royale avec les autres tribus, par rapport auxquelles elle constitue souvent une sorte d'élite. Des contingences historiques peuvent néanmoins bouleverser le tout. On peut éliminer la famille royale par un putsch, comme avec les Omrides. Un nouveau leader charismatique peut gagner rapidement des hommes et du territoire, comme Saul en Israël. Le centre et la périphérie peuvent changer. Si on regarde David, on a Bethléem, Hébron et Jérusalem. Bon. Ainsi, c'était grâce à la pression militaire et expansionniste des Araméens tout au nord des territoires réclamés par Israël que Micha put étendre son propre territoire au détriment d'Israël, de nouveau rappelant ce que le maire disait hier sur la stèle de Micha. Micha n'est donc qu'un de ces rois du Levant au IXe siècle, bien qu'un des plus connus grâce à sa stèle, tenant compagnie aux grandes figures de la région telles que les Omrites comme Hazael ou encore comme Saul. Or, contrairement par exemple à Israël ou à Aram-Damas, qui vraiment gouvernaient des territoires de taille, Moab de Micha était plutôt une sorte de micro-État, même de mon propre point de vue luxembourgeois. Je vous remercie.